Vous écoutez On lit pour vous.
50 ans d'histoire francophone dans le Nord. Un texte de Nelly Guidici, paru le 8 juillet 2025 dans le Nunavoie. Les communautés francophones du Nord se sont construites de façon similaire. Dès la fin des années 1970, dans un élan commun de revendication du droit d'accéder à des services en français, les francophones de deux territoires, puis trois, ont créé leur propre structure afin d'accueillir les membres de leur communauté, mais aussi revendiquer leurs droits linguistiques dans un contexte minoritaire. Dans les trois territoires canadiens, et de façon similaire, les communautés francophones sont en pleine croissance et évoluent au fil des arrivées de francophones et de leurs familles venant d'horizons variés comme l'Afrique, l'Europe ou encore l'Est du Canada. Non seulement les communautés du Nord se diversifient, mais elles n'en demeurent pas moins dynamiques, tenaces et investies. Pour Audrey Fournier, directrice générale de la Fédération franco-ténoise, FFT, la communauté francophone des territoires du Nord-Ouest est mobilisée, engagée et dynamique. Notre communauté était engagée dans le passé et elle l'est encore aujourd'hui pour faire valoir ses droits, explique-t-elle. Les grands mouvements de mobilisation des années 2000 et plus récemment en 2019 et 2025 pour obtenir le droit de recevoir une éducation en français sont des exemples de la combativité des franco-ténois lorsqu'il est question d'éducation. Ces actions citoyennes ont apporté beaucoup d'acquis aujourd'hui, pense Mme Fournier. Dans le territoire du Yukon, la communauté francophone est non seulement visible, mais aussi reconnue, dynamique et artistiquement riche, d'après Isabelle Salès, directrice générale de l'Association franco-yukonaise, AFY. Au Nunavut, ce sont la diversité et le dynamisme qui caractérisent le mieux une communauté hétéroclite, d'après Christian Waka, directeur général de l'Association des francophones du Nunavut, AFN. Un lieu de rassemblement, un défi pour certains territoires. Inauguré en 1989, le Franco-Centre d'Iqaluit a été acheté à la fin des années 1980. Ancienne baraque de l'armée américaine datant de la Seconde Guerre mondiale, elle est utilisée aujourd'hui comme lieu de rassemblement communautaire. Cependant, cette infrastructure vieillissante ne répond plus aux besoins de la communauté qui est en pleine croissance, et un projet de construction de nouveaux centres en est à ses prémices. Des demandes de financement auprès du gouvernement fédéral ont été déposées depuis plusieurs années afin de faire progresser le projet d'une maison de la francophonie. Ce bâtiment aurait pour vocation de réunir les services de l'AFN, des services communautaires. Une salle communautaire permettrait aussi des rassemblements et des activités sociales qui sont de grande utilité aujourd'hui, selon Christian Waka. Mais l'appui des différentes instances gouvernementales demeure fondamental. L'AFN est un organisme à but non lucratif. Nous n'avons pas les finances nécessaires pour aller de l'avant avec un tel projet par nous-mêmes. Nous avons besoin de l'appui du gouvernement fédéral et territorial, dit-il. Dans les territoires du Nord-Ouest, aucun centre communautaire n'a encore vu le jour, mais cela n'a pas empêché les francophones de se réunir dès 1978, année de la création de l'Association culturelle franco-ténoise, rappelle Mme Fournier. Je pense que la communauté francophone s'est rassemblée, mobilisée à maintes reprises depuis plus d'une trentaine d'années, développe-t-elle. L'idée d'un lieu de rassemblement ne date pas d'hier. Une demande de financement a de nouveau été déposée auprès de Patrimoine canadien à l'automne 2024 et des sessions de travail avec des consultants sont toujours en cours. Ça fait extrêmement longtemps que c'est sur la table et ça l'est encore aujourd'hui, rappelle la directrice de la FFT. Depuis que le nouveau gouvernement fédéral a été formé le 13 mai 2025, la FFT sonde les différents financements possibles pour un projet de cette envergure. La pérennité et la question de l'entretien d'une telle structure sont aussi au cœur de l'élaboration de ce projet, car selon Madame Fournier, il faut être innovant dans les façons de penser. Le centre de la francophonie, un pilier au Yukon. Le centre de la francophonie, tel qu'il est connu aujourd'hui, a été construit à Whitehorse au début des années 2000. Véritable guichet unique et d'accueil pour les nouveaux arrivants au Yukon, le centre reflète la volonté d'avoir dans un lieu unique les services en français et les services communautaires. Plusieurs organismes francophones comme le journal L'Aurore boréale ou le Partenariat communauté en santé bénéficient aussi de bureaux dans le bâtiment. L'idée de départ, c'était vraiment d'avoir un guichet unique francophone. Et c'était aussi au moment où on commençait à voir se développer des services en développement économique, en formation. On avait besoin de plus d'espace, dit Isabelle Salès, directrice générale de l'AFY. Restez vigilants. Force est de constater que des avancées majeures ont été obtenues par et pour les francophones en situation minoritaire dans les trois territoires. Cependant, la vigilance reste de mise d'après Mme Salès. Les minorités font toujours les frais de coupes budgétaires, en particulier dans le domaine de l'éducation. Il y a quand même une épée de Damoclès qui est en permanence au-dessus de la tête de la communauté francophone. Il faut donc rester tout le temps vigilant. Malgré les lois et les volontés politiques, il suffit qu'il y ait un nouveau gouvernement avec de nouvelles priorités pour que les avancées et acquis des francophones soient remises en question, explique la directrice de l'AFY. Alors que le danger d'assimilation est très présent, Audrey Fournier pense que les droits des minorités ne sont jamais véritablement acquis, car ils seront souvent remis en question d'une façon générale. Il faut qu'on soit proactif et que l'on identifie où sont les risques pour essayer de les mitiger. Il faut aussi faire la promotion de ce que la communauté francophone apporte au Canada de façon générale, mais également dans nos régions. Que peut-on espérer pour les francophones dans le futur? Christian Ouaka espère que la croissance de la communauté francophone au Nunavut va se poursuivre. Il souhaite également que les infrastructures nécessaires à une telle croissance suivront aussi. Je souhaite que la communauté continue d'être résiliente et que sa croissance soit suivie de l'écosystème nécessaire pour qu'elle soit soutenue. Même son cloche au Yukon. Madame Salès souhaite que la communauté franco-yukonaise continue de s'épanouir dans un environnement où la mise en œuvre de la loi sur les services en français est pleine et entière en matière de santé et d'éducation. Je souhaite aussi que nos personnes aînées puissent vivre leur retraite au Yukon dans la langue de Molière, précise-t-elle le sourire aux lèvres. Enfin, Madame Fournier espère qu'un centre communautaire franco-ténois verra le jour prochainement. Je pense que c'est vraiment important, c'est le cœur d'une communauté d'avoir la capacité d'organiser des repas communautaires ensemble, juste se rassembler quand ça nous tente, de la façon que ça nous tente aussi. Je souhaite aussi que les droits des francophones continuent d'être reconnus, puisque les différents paliers de gouvernement mettent la loi sur les langues officielles en œuvre, conclut-elle. C'était 50 ans d'histoire francophone dans le Nord, un texte de Nelly Guidici paru le 8 juillet 2025 dans le Nunavoie.
Néandertal, miroir déformant de l'humanité. Un texte de Julien Riel Salvatore et Amélie Valran, paru le 28 juillet 2025 dans Le Devoir. Julien Riel Salvatore est professeur titulaire d'archéologie préhistorique et directeur du département d'anthropologie de l'Université de Montréal. Amélie Valran est candidate au doctorat au département d'anthropologie de l'Université de Montréal et boursière du programme de bourse d'études supérieures du Canada. Sous le soleil implacable de l'été italien, la campagne de Ligurie semble vibrer dans la chaleur écrasante. Mais sous la voûte calcaire de la caverne de l'Arma delle Manie, c'est aux frais que nous révélons minutieusement les traces laissées il y a plus de 40 000 ans par certains des derniers néandertaliens d'Europe. Oubliez les dinosaures et les mammouths. C'est grâce aux objets et aux bâtis abandonnés par les humains que les archéologues étudient la vie du passé. Ainsi, alors qu'au Québec, le mois de juin marque la fin des cours et le début des vacances, pour notre équipe, il annonce le retour sur le terrain à la recherche des sites occupés par nos cousins néandertaliens. Alors que les inégalités sociales se creusent et que les bouleversements climatiques et l'autoritarisme politique sont en plein essor, l'archéologie, en particulier celle de nos lointains ancêtres, peut sembler bien en marge des préoccupations actuelles. Il n'en est rien. Au contraire, elle demeure un pilier essentiel de la recherche. Les données recueillies sur des sites archéologiques partout dans le monde sont cruciales pour comprendre tant les racines profondes de ces défis que les fondements de notre humanité. En effet, seule l'archéologie permet de reconstituer le récit de toutes les cultures qui n'ont pas laissé de registres écrits, ce qui représente plus de 95 % de l'histoire de l'humanité. En ce qui concerne Néandertal, l'archéologie nous permet de déceler non seulement précisément ce qui la différenciait d'Homo sapiens, mais aussi, par la bande, ce qui nous définit en tant qu'espèce. Étudier Néandertal, c'est donc remettre en question l'origine de nos propres comportements. Ayant vécu en Eurasie pendant près de 300 000 ans et survécu à de nombreux cycles de glaciation, Néandertal a fait preuve d'une résilience exceptionnelle face aux changements climatiques. Cette résilience offre un parallèle à nos propres réactions face aux bouleversements climatiques actuels. Bien loin de la caricature d'hommes des cavernes primitifs, souvent véhiculés dans les médias, nos recherches récentes montrent que Néandertal savait finement s'adapter aux fluctuations environnementales auxquelles il devait faire face. Il était en effet capable de remédier à la diminution de grands gibiers en diversifiant son régime alimentaire par l'exploitation de petites proies comme les lièvres et les oiseaux et les fruits de mer. De plus, nos fouilles ont aussi révélé des traces de production de farine de céréales sauvages, ce qui démontre la transformation et le stockage de nourriture lors de périodes d'abondance. Outre ces adaptations locales, l'étude de la distribution des sites néandertaliens à grande échelle indique des mouvements migratoires importants. Lorsque les conditions devenaient trop rudes ou trop difficiles à supporter, Néandertal n'hésitait pas à quitter certaines régions pour migrer vers des zones plus hospitalières. Les vagues migratoires à grande échelle semblent donc être une constante de l'histoire humaine et non une exception moderne. Si nos recherches contribuent à réhabiliter l'image que nous nous sommes faites de cette autre humanité, elles jettent aussi une lumière nouvelle sur la question troublante de sa disparition. Pendant des décennies, on a cru qu'Homo sapiens avait exterminé Néandertal lors de sa colonisation de l'Europe, ce qui a laissé croire que nos contacts avec l'autre étaient toujours nécessairement hostiles. Pourtant, les données archéologiques révèlent une réalité bien différente. On ne trouve presque aucune trace de violence interpersonnelle au moment de cette transition. Au contraire, les traces abondent des soins prodigués à des congénères blessés ou rendus invalides à la suite de blessures de chasse. Ces blessures graves ont nécessité l'intervention de leur groupe, sans quoi la guérison et la survie de ces individus auraient été impossibles. À cela s'ajoutent les données génétiques récentes provenant de sites bien conservés, comme celui où nous fouillons actuellement. Celles-ci témoignent de nombreux échanges génétiques entre Néandertal et Homo sapiens, ce qui remet en question l'idée d'une nature humaine fondamentalement violente. L'ensemble des données scientifiques les plus récentes évoque ainsi plutôt une histoire de cohabitation, de contact et d'échange. Ces dernières avancées dans la reconstruction de l'histoire profonde de notre espèce sont rendues possibles grâce à la multidisciplinarité croissante de nos équipes qui regroupent dorénavant archéologues, généticiens, géologues et autres spécialistes. De plus, ce contexte de recherche nous permet de faire valoir à l'étranger la vigueur de la recherche québécoise, situant nos universités comme des intervenants de premier plan dans l'étude des origines de l'humanité et de la collaboration scientifique internationale. Ce programme de recherche offre aussi aux étudiants et étudiantes qui y participent des compétences transversales qui les aident ensuite à se distinguer et à s'ancrer durablement dans notre propre écosystème de recherche. En somme, l'étude de Néandertal offre l'occasion de remettre en question nos certitudes et nos préconceptions. Approfondir notre compréhension de Néandertal et des représentations que nous avons construites à son égard nous oblige à repenser des notions fondamentales telles que la violence et le progrès, mais aussi à envisager d'autres formes d'intelligence, de solidarité et de résilience. Cela permet d'en faire un miroir déformant, mais révélateur de notre propre humanité, c'est-à-dire qui nous aide à mieux appréhender ce qui nous distingue du reste du monde vivant, passé et présent. Comprendre une autre humanité, c'est donc aussi apprendre à mieux habiter la nôtre. En ce sens, l'archéologie n'est pas seulement tournée vers le passé, mais s'inscrit plutôt dans la réflexion sur le monde et les enjeux contemporains. C'était Néandertal, miroir déformant de l'humanité. Un texte de Julien Riel Salvatore et Amélie Valran, paru le 28 juillet 2025 dans Le Devoir.
Merveilles traquées. Une chronique de Vanessa Bell, parue le 21 octobre 2024 dans les libraires. Petit matin sur la galerie. Le jour s'ouvre à peine, glissant d'un bleu épais vers la lumière. Les feuilles commencent à se crisper. À travers les frênes, le soleil crie une couleur exigeant que le monde pulse encore sous sa course. Plus il se lève, plus mon sourire s'estompe. Je me tiens entre deux mondes, entre deux temps de vie, là où le chant des grillons, le rythme des griffes d'écureuil contre les troncs, se perdent sous le mouvement, vrombissant des moteurs. Je me tiens contrarié par l'insistance du jour que je voudrais suspendu. Seul le pétrichor persiste à peupler mon nez de nostalgie. C'est bien l'automne. La dormance avance sur nous dans ses derniers éclats de vie. Dehors, comme dans les livres, on se pare de fourrures, de mots chauds pour préparer le corps à l'hiver qui vient. Je me construis un bestiaire à travers quelques titres choisis, d'où surgissent baleines, renards, truites, loups, wawarons, lagopèdes, pigargues, bœufs musqués. Mais aucun orignal. C'est étrange, c'est pourtant la saison. Ah, vous dirai-je, maman, il faut des muscles particuliers pour entraîner sa langue et entrer dans le catalogue des herbes rouges. Les muscles de Mégane Desrosiers sont résolument spectaculaires, tant son arrivée en poésie est une déflagration. Une bouche, un trou, s'ouvre en ligne droite, fend le crâne, puis toute l'enfance et avec elle l'adolescence, jusqu'à l'âge adulte, où naît l'énonciation. Entraîne dans son mouvement le corps de fille, toujours en porte-à-faux devant ceux de sa famille. Petite salissure, bave au ravin, terre à la lèvre, petite et longue, oui, longue partie de plaisir, petite et sale et rien. Maudite croûte, maudite effritée de l'ancêtre qui remonte, maudite graffignée du plat, maudite perte, maudite hostie. La voix s'articule dans des incantations qui rappellent la poésie de Catherine Lalonde, qui, justement, publiait en octobre dernier le grand et foisonnant texte « Trou », étrangement apparenté à celui-ci. Avec la bouche pour montrer une série de lames, la poète déploie une langue fascinante et terrifiante, obstinément jouissive. Une langue exempte de honte où la pisse et la merde se portent à la boutonnière. Si la rencontre est ardue, voire impossible, entre le trou et la mer, elle happe et attrape instantanément, et ce, dès la première page, la tête qui lit. Sur le chemin, des animaux émergent de l'eau. Tout est humide, du dehors jusqu'à la culotte souillée. En filigrane, on entend le rire d'une renarde et devine les œufs croqués avant que soit terminée la couvaison. C'est un jeu grave et exaltant. Par ce premier recueil, Desrosiers affirme dès la ligne de départ son appartenance à la poésie québécoise actuelle, proposant une course qu'il me tarde de faire à ses côtés, admiratif d'avance de ce qui suivra. Requiem pour les loups. Si on dit des auteurs qu'ils passent leur vie à écrire le même livre, de manière plus ou moins différente, ils demeurent, même dans les trajectoires les plus exceptionnelles, des livres que l'on ne peut écrire qu'une seule fois. Acculés contre soi, avancés dans l'existence. Depuis des décennies, le poète Jean-Marc Desjans tient son lectorat en haleine dans un combat absolu avec lui-même où la nature est le lieu de toutes les vérités crues, où les bêtes sont des amis de souffrance, de dialogue. Bien que chant nordique et chant mystique convoquent les thèmes et constellations qui fondent l'œuvre du poète, une œuvre magistrale, reconnaissable parmi toutes, ce dernier titre est familier tout en étant distinct. Il s'offre à la mort, non plus sous forme d'affrontement, mais d'effusion. Ici, les chants oscillent entre amour, confession et destruction. Il s'agit d'un soubresaut où, à la manière d'un enfant devant le sommeil, tout est emporté dans une passion dévastatrice. Prends quelque chose pour te défendre, frappe la nuque, hurle, fais le pire. Tue peut-être, répète-toi plusieurs fois la leçon, puis disparaît le soir en forme de bleu profond. Témoins volontaires de cette déchirure, nous devons dès lors, pour traverser la litanie et en saisir sa beauté claire, embrasser la violence de la voix, nous laisser bercer jusque dans nos retranchements par cette humanité partagée. la somme de nos risques heureux. En contrepoint aux violences et aux morts annoncées, Jean Désy entame une marche, une brasse, un livre qui est une prière. Avec « Aimer la terre », le poète arrive au plus près de sa forme finale et aboutit celle de « Nirlit ». Prêt pour son dernier envol, il dresse l'inventaire de sa vie, convoquant bêtes et amis, glace et amour. Dans le ciel, comme en son canot, il flotte parmi le vivant, battant en son corps une ode au territoire qui lui a enseigné à renaître. On y rencontre les échos des œuvres de Pierre Morency, de Jim Harrison. On y lit une formule simple pour étirer le temps, pour faire de la vie une éternité. Aimer. Aimer la terre. Aimer la vie. Aimer le vent. Aimer les autres, aimer l'ensemble de ce qui est animé, inanimé. Vivre ne peut que se faire par le cœur. Vivre, c'est apprendre à mourir. Et pour mourir, il faut croire. Crier sa joie, risquer sa vie. Il faut admettre son absolu besoin de croire. Et voilà que tout en haut, dans le passage du nord-ouest, à quelques mètres de l'île d'Elsemer, surgit Paris. Dans le froid, j'entends la voix posée, brillante, savante, de Dominique Fortier et son « Notre-Dame de tous les peut-être ». Je la vois incarner, déplacer le mot « peut-être » vers les mots « espoir pris ». On ne peut lire que si on y croit, dans l'espace des pages, de la même manière, exactement de la même manière qu'on ne peut aimer sans y croire. Dès que l'on cesse de prêter foi, l'enchantement se brise. Les cathédrales s'évanouissent. Daisy reprend sa marche. Les yeux rivés vers les cieux, les poches pleines de rivières. Le poète médecin rend grâce, s'abandonne à ses amours pour qu'adviennent toutes les beautés du monde, celles qui n'existent qu'après l'effort et le danger sublime. Il s'y tient prêt. Et nous avec lui. Le livre se referme contre ma poitrine. Un murmure se cache dans ma respiration. Nakurmik, Maria Luc. C'était Merveille traquée, une chronique de Vanessa Bell, parue le 21 octobre 2024 dans les libraires.